Chapitre 86, Réveil à sensation. L'intérêt des membres de l'Église de a été trop dispersé. Quand un nouveau sujet d'excitation apparaît, il y a toujours des gens pour jeter le poids de leur influence du mauvais côté. Il faut être sur ses gardes pour ne pas se laisser entraîner à des erreurs destinées à nous écarter de la vérité que nous avons à prêcher. Il y a toujours des gens prêts à voir et à entendre des révélations nouvelles et étranges. Et l'ennemi de nos âmes, particulièrement dans les grandes villes, a tout ce qu'il faut pour éveiller la curiosité et retenir l'esprit loin des vérités par lesquelles nous devons être sanctifiés dans cette dernière période de l'histoire du monde. Si l'on prête l'oreille à toutes les variétés d'excitation religieuse et que l'on néglige de soutenir pleinement, par sa présence et son influence, la minorité de ceux qui ont foi en une vérité impopulaire, il y aura beaucoup de faiblesses dans l'Église, là où il devrait y avoir de la force. Satan emploie des moyens variés pour accomplir ses desseins. Si, sous le drapeau d'une religion populaire, il peut entraîner ceux qui chancellent sur le chemin de la vérité, il a abouti à ce qu'il désire, affaiblir le peuple de Dieu. Cet enthousiasme pour de prétendus réveils, enthousiasme qui va et qui vient comme la marée, trompe par ses fluctuations beaucoup d'honnêtes gens qui sont enclins à penser qu'il y a là le véritable esprit de Dieu. Les conversions se multiplient. Les personnes excitables, les faibles s'assemblent autour du nouveau drapeau. Mais lorsque la vague se retire, ces gens échouent sur le rivage. Que de faux docteurs ne vous trompent pas ni ne vous entraînent par de vaines paroles. L'ennemi des âmes sait qu'il a suffisamment de fables agréables pour satisfaire la curiosité de tous. Il y aura toujours des étoiles filantes, mais le trait de feu qu'elles laissent s'efface immédiatement, et les ténèbres semblent plus denses qu'auparavant. Ces réveils religieux à sensation qui se produisent par le récit d'anecdotes et d'exhibitions excentriques et bizarres, ne sont qu'une œuvre de surface. Ceux dont la foi est entraînée par le charme et l'engouement produit par ces lumières subites ne contribueront jamais à édifier l'Église de Dieu. Ils sont prêts à se retirer à la moindre occasion et à en entraîner d'autres à ces assemblées où ils entendent des prédications qui affaiblissent l'âme et apportent la confusion dans les esprits. C'est détourner l'intérêt de la cause de Dieu et c'est pourquoi l'œuvre du Seigneur y est stagnante. Il faut être ferme dans la foi, et ne pas se laisser ébranler. Nous avons une œuvre devant nous. Elle consiste à faire briller la lumière de la vérité révélée dans la loi de Dieu, à la faire pénétrer dans les esprits pour que toute obscurité soit bannie. Cette œuvre demande de la décision, une énergie persévérante et un but précis qu'il faut s'efforcer d'atteindre. La fermeté, une nécessité. Certains membres de l'Église ont besoin de s'appuyer fermement sur les piliers de notre foi, de trouver le roc sur lequel ils bâtiront au lieu de se laisser entraîner par les excitations et les impulsions du moment. Il y a des dyspeptiques spirituels dans l'Église. Certains se sont mutilés eux-mêmes et leur débilité spirituelle est le résultat de leur attitude irrésolue. Jetés ça et là par tout vent de doctrine, ils sont souvent dans le trouble et dans l'incertitude parce qu'ils se laissent guider uniquement par leurs sentiments. Ils recherchent cette excitation des sens et ont toujours faim et soif de quelque chose de nouveau et de différent. Leur foi est abusée par des doctrines étranges. Ils sont sans utilité pour la cause de Dieu. Le Seigneur veut des hommes et des femmes stables, bien décidés, sur lesquels on puisse compter à l'heure du danger et de l'épreuve, solidement enracinés et fondés dans la vérité, comme le sont les collines éternelles. Des chrétiens qui ne penchent pas tantôt à droite, tantôt à gauche, mais qui vont de l'avant sans se laisser détourner de leur but. Mais il en est qui, au moment du danger, doivent presque toujours être cherchés dans les rangs de l'ennemi et qui n'ont d'influence que pour le mal. Ils ne sentent pas l'obligation morale de mettre toute leur force du côté de la vérité à laquelle ils prétendent croire. De telles personnes seront rétribuées selon leurs œuvres. Ceux qui font peu de choses pour le Sauveur en faveur du salut des âmes et qui ne s'efforcent pas de marcher avec droiture devant Dieu, ceux-là n'acquerront que peu de vigueur spirituelle. Il nous faut sans cesse exercer nos forces si nous voulons qu'elles augmentent. De même que la maladie résulte de la violation des lois de la nature, de même l'anémie spirituelle provient d'une continuelle transgression de la loi de Dieu, même si les transgresseurs prétendent en garder tous les commandements. Il faut nous tenir plus près du Seigneur, être en communion toujours plus étroite avec le ciel, agir suivant les principes de la loi, dans les moindres détails de notre vie quotidienne, alors nous serons en pleine vigueur spirituelle. Dieu a donné à ses serviteurs des talents qui doivent être employés pour sa gloire, et non gaspillés ou laissés sans emploi. Il leur a donné la lumière et la connaissance de sa volonté pour qu'ils la communiquent à d'autres afin que par là nous devenions de réelles sources de lumière. Si nous n'exerçons pas nos forces spirituelles, nous nous affaiblissons, de même que les membres d'un malade deviennent sans force quand il est obligé de rester longtemps inactif. C'est l'exercice qui rend fort. Le service chrétien. Rien ne donne une plus grande force spirituelle, rien n'augmente autant la ferveur, la profondeur et l'acuité des sentiments que de s'occuper des malades et des désespérés, en les aidant à discerner la lumière et à mettre leur foi en Jésus. Il y a des devoirs désagréables qu'il faut bien que quelqu'un fasse, sinon des âmes seraient abandonnées à leur perte. Les chrétiens trouveront de riches bénédictions en s'acquittant de ces tâches, si ingrates soient-elles. Pour sauver les âmes, le Christ a abandonné son séjour de pureté et de gloire et est venu habiter parmi les hommes, dans un monde endurci par le crime, la violence et l'iniquité. Ceux qui ont été l'objet d'un amour si merveilleux et d'un abaissement jamais égalé s'excuseront-ils de mener une vie égoïste? Choisiront-ils leur propre plaisir? Suivront-ils leurs propres inclinations pour laisser les âmes périr dans les ténèbres parce qu'ils ne veulent pas risquer d'être déçus et rebutés en travaillant au salut de leurs semblables? Le Christ a payé d'un prix infini la rédemption de l'homme. Diront-ils : Seigneur, je ne veux pas travailler dans ta vigne, excuse-moi, je te prie. Dieu appelle ceux qui dans Sion se sentent à l'aise, afin qu'ils se réveillent et qu'ils se mettent à l'action. N'entendront-ils pas la voix du Maître? Il a besoin de serviteurs fidèles, d'hommes de prière, qui consentent à semer le long des eaux. Ceux qui se mettront à ce travail seront surpris de constater que les épreuves, résolument supportées au nom et avec la force de Jésus, les rendront fermes dans la foi et leur donneront un nouveau courage. Sur le sentier de l'humble obéissance se rencontrent la sécurité et la force, le réconfort et l'espérance. Mais la récompense ne sera pas le lot de ceux qui ne veulent rien faire pour le Maître. La faiblesse de leurs mains ne leur permettra pas de saisir le bras du Tout-Puissant, leurs genoux vacillants ne pourront les soutenir au jour de l'adversité. Ceux qui lisent leur Bible et travaillent pour le Christ recevront une glorieuse rétribution, et entendront résonner ses paroles, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. »